C'est même une fois, j'avais la main sur la poignée de la porte de son bureau parce qu'on parlait fort, j'avais fermé la porte. Puis là, j'ai dit, OK, là, papa, là, c'est aujourd'hui que je te redonne mes actions. Je pars, je vais aller m'ouvrir un petit café dans le Vieux-Boucherville. Je te redonne mes actions parce que là, moi, me trouver une nouvelle job, c'est facile. Mais me trouver un nouveau père, ça, c'est pas possible.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 145e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matin. Également, j'en profite aujourd'hui pour vous faire une toute nouvelle annonce. Le 3 mai dernier, on a officiellement lancé notre troisième balado hebdomadaire intitulé « Commerce Élite ». Après hypercroissance et social selling, on a décidé de lancer un nouveau podcast qui sortira à chaque mardi parlant des tendances à suivre dans le commerce électronique. Des entretiens tactiques et stratégiques seront également au rendez-vous. Donc, si vous possédez un commerce en ligne et que vous désirez le transformer en commerce élite, allez jeter un petit coup d'œil à notre tout nouveau balado ou encore transférez le podcast à votre chef du département marketing. La semaine dernière, sur le podcast, Julie Roy nous mentionnait que la reprise de la société que son père avait créée s'était faite dans les règles de l'art. Une planification mise en place, un plan de relève défini et surtout du temps de travail collaboratif entre son père et elle. Bref, une passation que Julie risque de répliquer dans le futur si elle a à céder service roi à la prochaine génération. Maintenant, est-ce toujours le cas dans la reprise d'entreprise? Est-ce que des fois les changements de gouvernance peuvent être un peu plus complexes? Brigitte Jalbert, présidente de l'organisation Emballage Carrousel, est avec nous aujourd'hui pour le 145e épisode. Elle qui a hérité en 2011 de l'entité créée par son père 40 ans plus tôt, nous explique que tout n'est pas toujours facile pour une repreneur. Le fondateur d'origine peut être très attaché à son entreprise et le changement de garde peut être plus compliqué. Malgré tout, chapeau à Brigitte qui a été capable d'amener l'entreprise à 206 millions de chiffre d'affaires en 2022 quand celle-ci tournait à moins de 100 millions annuellement au moment de la reprise. Pendant près de 50 minutes, on en discute donc dans le podcast. Sans plus attendre, ma discussion avec Brigitte Jalbert. Brigitte Jalbert, vous êtes la présidente de l'entreprise Emballage Carrousel, une organisation fondée par votre père en 1971. En 2011, plus de 40 ans après sa fondation, vous prenez la présidence de l'entreprise et sous votre gouvernance, la société est passée de 98 millions de chiffre d'affaires annuel à 206 millions en revenus. Brigitte Jalbert, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Merci à vous de m'avoir invité, c'est gentil.
Madame Jalbert, avant de parler de la belle histoire de votre entreprise, pouvez-vous partager à notre audience aujourd'hui qu'est-ce que Emballage Carrousel?
Bien sûr. Emballage Carrousel, c'est une entreprise qui a 51 ans maintenant. C'est une entreprise qui a été fondée par mon père en 71. Ce qu'on fait surtout, c'est de la distribution de produits d'emballage, de l'emballage de toutes sortes en fait. Ça a commencé dans les premières années avec de l'emballage alimentaire seulement. Puis avec les années, on a ajouté beaucoup, beaucoup de lignes de produits, de secteurs de marché. Maintenant, on vend de l'emballage pour les industriels, on vend de l'emballage de protection, on vend aussi beaucoup de produits de sanitation, sanitaire, entretien. On vend aussi de la machinerie d'emballage. Puis, je fais souvent le parallèle, on peut offrir une machine qui va emballer un poivron ou des portes de garage en passant par la tourbe. Alors, c'est assez varié. Et puis, on a aussi un service de technicien, soit entretien de machinerie, installation, réparation. Et puis, on a pour finir la liste, une usine qui fabrique des sacs à pain en papier. Alors, on est distributeur, mais le seul produit qu'on fabrique nous-mêmes, c'est les sacs en papier pour principalement pour le pain, mais aussi pour la pharmacie. Des sacs en papier qui n'ont pas de fond plat, là. C'est des sacs à fond pointu qu'on appelle.
Donc, un peu manufacturier et beaucoup distributeur, on peut dire ça comme ça.
C'est ça, oui. Oui. C'est un bon résumé.
Et Madame Jalbert, l'entreprise, comme je le disais en introduction, a été fondée en 1971. Mais on peut voir que très tôt, dès 1986, je pense bien, vous avez intégré l'organisation. J'ai cru comprendre, en vous écoutant dans divers entretiens, que vous pensiez pas au départ travaillé longtemps dans l'entreprise. D'ailleurs, je pense que c'était davantage un emploi de courte durée, peut-être même un emploi d'été, parce que vous, à la base, votre corps de métier, c'était la photographie. Première question pour vous aujourd'hui, ça a été quoi l'élément qui vous a fait changer d'idée et finalement qui vous a gardé chez Emballage Carrousel?
Bien, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de facteurs. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'est vrai, je suis arrivée dans l'entreprise en attendant de me trouver quelque chose dans mon domaine qui était plus la photographie ou le domaine des arts. J'ai travaillé avant ça 2 étés là chez Carrousel pour gagner des sous là comme tous les jeunes. J'ai travaillé aussi 2 étés chez Bell Canada, mais deux autres chez Carrousel. Puis après mon deck en photo, je savais toujours pas trop dans quoi me diriger parce que je voulais pas vraiment travailler à temps plein en photographie, puis je peux dire que je me suis beaucoup cherchée. Alors, j'ai fait 3 certificats par la suite dans 3 domaines complètement différents. Et puis, à travers ça, ben je continuais de travailler dans l'entreprise là pour justement faire des sous, payer mon appartement. Puis quand je suis rentrée chez Carrousel, c'était vraiment en attendant parce que dans ce temps-là, Carrousel c'était tout petit. On avait peut-être un chiffre d'affaires de 7-8 millions puis 20 quelques employés. Puis je voyais pas ce que je pouvais apporter dans l'entreprise là, mais vraiment pas. À ce moment-là, l'entrepreneuriat ça me disait absolument rien.
Mais je vous étiez vraiment très jeune aussi à ce moment-là.
J'avais le début vingtaine, puis tu sais, aujourd'hui je trouve ça le fun que l'entrepreneuriat soit autant valorisé puis ouvert, accessible. On en voit de plus en plus de jeunes qui se lancent en affaires, mais dans ce temps-là c'était pas ça. Puis je me disais moi c'est sûr que mon père va m'engager, je suis sa fille, c'est pas parce que j'ai des compétences. Fait que tu sais, je trouvais pas ça valorisant. Fait que, mais finalement, je me suis fait prendre au jeu, je me suis attachée à l'entreprise, je me suis attachée aux gens qui la formaient, je me suis attachée aussi à mon père, je le trouvais donc inspirant, puis je trouvais que c'était un bon leader, puis je me suis aussi comme, c'est comme si j'avais embrassé la culture puis la vision de l'entreprise. Mais ça m'a pris du temps pour tout ça, tu sais. Mais finalement, je me suis fait prendre, je suis restée. Puis là, ben, ça fait 30 quelques années, là, de ça.
Ouais, le reste, c'est l'histoire, là, maintenant. Et je serais curieux d'avoir l'opinion de votre père à l'époque. À quoi ressemblaient les discussions dans les soupers de famille quand vous lui disiez que vous, finalement, peut-être, c'était la photographie, ce serait uniquement pour une courte durée chez Carrousel? Quelle était sa réaction? Est-ce que lui tentait de vous convaincre, de vous dire « Hey, ça va être ta carrière, là, donne un peu de temps, tout ça. »
Du tout, pas du tout. Vraiment, mes parents ont été ultra respectueux, tu sais. Vraiment, leur façon de voir les choses, c'était vraiment vivre et laisser vivre. C'est comme, on a fait des enfants, on les guide, mais c'est eux qui prennent leurs décisions. Puis j'essaie de faire la même chose. Ben j'ai fait la même chose avec mes filles. Puis je pense que c'est important. On peut leur donner des éléments de réflexion, puis essayer de les encourager. Mais je pense qu'au final, c'est l'enfant qui doit vraiment décider pour sa carrière. Fait que mes parents ont jamais insisté. Ils étaient contents. Mon père était content. Puis on s'est toujours bien entendu. Mon père et moi, fait que je pense qu'ils étaient fiers de ça. Mais sans trop le montrer, tu sais, parce que j'ai l'impression justement ils voulaient pas influencer mes décisions. Mais on en parlait beaucoup. On en parlait beaucoup, c'est sûr, dans les soupers de famille de l'entreprise. Puis ça aussi, ça a influencé ma décision. C'est que on finit qu'on veut, on veut faire la différence, tu sais, on veut aider.
Mmh. Ouais. Puis bon, vous prenez la présidence de l'organisation en 2011. Vous avez intégré l'entreprise en 1986. Donc, il y a quand même du temps entre les deux, hein, on peut le voir là, ici.
Ouais.
Quel a été votre rôle à travers ces, littéralement, 25 années-là? Est-ce que vous avez pris des postes de direction peut-être en ressources humaines, davantage aux ventes? Comment votre rôle a évolué à travers ces 2 décennies-là, littéralement?
Bien, mon rôle a évolué, je dirais, proportionnellement à l'évolution de l'entreprise. Tu sais, au début, il y avait des besoins plus au niveau du service à la clientèle. Après ça, ben j'ai grandi avec l'entreprise, j'ai occupé plusieurs postes. J'ai pris la direction du service à la clientèle, qui était un tout petit service à ce moment-là. Finalement, c'est les ventes internes qu'on appelle aujourd'hui. Puis après ça, J'ai occupé un poste aux achats. Je m'occupais principalement d'acheter tous les produits que nos clients font imprimer avec leur image corporative, comme par exemple les sacs à pain de première moisson ou des verres en plastique imprimés Molson pour les festivals ou tu sais des trucs comme ça. Fait que j'avais comme le côté artistique qui venait me chercher là, tu sais, qui me rejoignait. Et puis en même temps, ben à travers ça, j'apprenais les rouages de l'entreprise, puis quelques notions. Puis après ça, tranquillement, c'est ajouté des tâches au niveau plus du marketing. J'ai développé des concepts marketing, une brochure illustrée qui existait pas du tout dans notre domaine au Canada, puis ça a vraiment fait fureur. On a même gagné un prix de la Chambre de commerce avec ça, puis ça m'a vraiment encouragée. À ce moment-là, je pense avec cette brochure-là que j'ai développée, et puis le prix qu'on a gagné chez Carousel, ça m'a donné comme vraiment une tape dans le dos, puis ça m'a dit, ah ben il y a peut-être moyen pour moi de faire ma place dans l'entreprise avec mon côté artistique. Ça a été un des éléments déclencheurs. Mais après ça, bon, ça s'est élargi là, tu sais, comme tâche. J'ai ajouté aussi de façon comme informelle des tâches au niveau des ressources humaines, parce qu'à ce moment-là, pendant longtemps, on n'a pas eu de département des ressources humaines ou de personnes spécialisées dans ce domaine-là. Ça fait qu'on faisait ça nous-mêmes là, tu sais, j'aidais mon père, mais j'aidais aussi notre directeur d'entrepôt s'il y avait des caristes à trouver, ou notre directeur du transport s'il y avait des livreurs à trouver. Fait que je me suis impliquée à ce niveau-là aussi. Puis bon, ben finalement, en 97, je pense, mon père a décidé d'offrir un pourcentage de ses actions, parce que là, il voyait qu'il vieillissait, puis il voulait préparer une équipe de relève. Fait qu'à ce moment-là, je suis devenue actionnaire avec trois de mes collègues de travail. Fait qu'on s'ajoutait à mon père comme actionnaire. Fait qu'on est devenu c'est passé de un actionnaire à cinq.
Si je me trompe pas, c'était les deux directeurs de vente, hein, qui se sont intégrés à tout ça, bon.
Oui, Alain Hott et Richard Blais. Puis, c'était des employés clés chez nous qu'on voulait vraiment s'attacher. Puis, on était attachés à eux vraiment aussi de façon émotionnelle, parce que c'était des gars qui travaillaient chez nous depuis longtemps, puis qui étaient avec lesquels on s'entendait vraiment bien. Puis, l'autre actionnaire, c'était Serge Mérineau, qui était mon cousin, qui est arrivé chez nous après avoir fait carrière dans le domaine des autobus. Alors, c'est ça. C'est qu'à ce moment-là, quand mon père a divisé ou partagé ses actions, je suis devenue vice-présidente, un poste que j'occupais avec Serge. On était en fait tous les deux co-présidents et actionnaires de l'entreprise. Puis là, mon père, il devait avoir à peu près 65-70 ans, je crois bien, là, dans ces années-là. Puis, la confiance, je gagnais en confiance de façon très graduelle. Et puis, éventuellement, ben mon père, en vieillissant, a commencé peut-être à avoir un petit peu plus peur du risque, si on peut dire. Il était devenu un peu suspicieux. Tu sais, quand on voulait faire des changements, ben il était pas toujours d'accord, parce qu'il nous disait, ben là, on va dépenser X centaines de milliers ou millions de dollars dans telle procédure ou telle façon de faire, alors que ça fait 30 ans qu'on fonctionne comme ça, puis ça fonctionne bien. Pourquoi qu'on mettrait de l'argent là-dessus? Pourquoi qu'on prendrait on irait chercher des consultants à l'externe? Bon, tu sais, on n'était plus sur la même longueur d'onde, tu sais. Moi, je voulais développer puis améliorer les choses, tu sais, en fonction du futur, puis s'assurer de la pérennité, puis lui était réticent à ça. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai vu que là, on commençait à avoir un genre de disconnect entre nos façons ou notre vision pour l'entreprise. Puis c'était bien normal, là, il était plus vieux. Puis c'est en 2011, c'est ça, que je l'ai invité à souper, puis que là, je lui ai dit... là, j'ai dit, papa, je pense que c'est le temps.
Donc c'est venu de vous, assez fascinant tout ça.
Oui, il voulait pas. Mais je pense que c'est la majorité des personnes ou des entrepreneurs qui ont fondé leur entreprise. Ils sont tellement attachés. Puis tu sais, les gens autour de moi me disaient, oui, mais Brigitte, faut que tu comprennes, tu sais, Carousel, c'est son bébé. Puis moi, je réponds toujours à ça. Ben, moi aussi, j'étais son bébé, puis moi, il m'a laissé partir. C'est plus que ça. C'est plus que son bébé, dans le fond, c'est son identité.
Bien sûr.
L'entreprise, c'était son identité. Fait que c'est pour ça que ça a été si difficile pour lui de reculer d'un pas.
Et la question qui, à mon avis, tous nos auditeurs aimeraient savoir, comment s'est déroulé ce souper-là? Est-ce que sa réponse a été positive? Est-ce qu'au contraire, il était craintif? Comment tout ça s'est déroulé?
Ben, ça n'a pas été très facile. Il a été très à l'écoute. Moi, je suis arrivée à cette soirée-là, j'avais une feuille 8,5-11 avec recto verso sur laquelle j'avais écrit, le titre c'était « Ce que je ferais si j'étais présidente ». Ça fait que j'avais une longue liste de choses que je voulais apporter, d'autres que je voulais modifier, puis certaines choses que je voulais changer, tu sais, du tout pour le tout, tu sais, ou éliminer même, si on peut dire. Ça fait que cette feuille-là, je l'avais dans mon sac à main. Puis quand on a commandé notre repas, là, j'ai pris le taureau par les cornes parce que ça me prenait beaucoup de courage quand même. Puis ça, j'ai réalisé ça après coup, que ça m'avait pris du courage parce que ça faisait quand même une couple d'années que j'étais plus heureuse dans l'entreprise parce que j'avais peur pour la suite des choses, tu sais, parce que je voyais que mon père, inconsciemment, il devenait un frein pour l'entreprise. Alors, là, je lui ai dit, tu sais, papa, t'as 74 ans, je me souviens pas trop quel âge il avait exactement, mais j'ai dit, moi, je pense qu'il y a des chances que tu meures avant moi. Tu sais, on va se le dire, on va se dire les vraies affaires. Puis, si tu veux pas vendre à des étrangers, parce qu'il y avait eu souvent des offres pour des propositions, tu sais, d'acheteurs, auxquelles, tu sais, il disait toujours non, là, tu sais, parce qu'il voulait pas vendre l'entreprise par loyauté pour les gens qui lui avaient fait confiance. Puis ça, c'est tout à son honneur. Mais j'ai dit, si tu veux pas vendre à un tiers, alors il faut que la passation des pouvoirs ou du flambeau se passe à l'interne. Puis, je pense que maintenant, je suis prête à accepter ce défi-là. Puis, je pense que c'est le temps de le faire. Parce que là, on allait cette année-là fêter notre 40e anniversaire, tu sais. Puis, on avait un party avec tous nos employés de prévu en juin. Fait que j'ai dit à papa, j'ai dit, tu sais, on pourrait en profiter ce soir-là. On pourrait annoncer à tout le monde, tu sais, que tu passes le flambeau à la deuxième génération. Puis que ta fille qui est ici depuis 1986, elle a envie de relever le défi. Puis que tu me fais confiance. Puis bon. Bref, il a pas mangé beaucoup, je peux vous dire, là, durant ce souper-là. Il avait les bras pendants pas mal, puis en tout cas, ça, je sentais que ça passait de travers, mais tu sais, il me disait, oui, c'est vrai, t'as raison, on est rendu là, puis je rajeunis pas, puis ci, puis ça, bon. Fait que la soirée a passé comme ça, puis le lendemain matin, tu sais, on était à Québec, on était allé saluer notre équipe de Québec pour leur souhaiter la bonne année, puis tout ça, fait que on dormait au Germain dans le Vieux-Québec, puis là, le matin, il arrivait pas au petit déjeuner, puis ça m'inquiétait. Fait que là, j'ai appelé à sa chambre, il n'y avait pas de réponse. Puis finalement, je le vois sortir de l'ascenseur avec les cheveux ébouriffés un peu, tu sais. Puis je voyais qu'il avait pas l'air dans son assiette. Fait que j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il m'a dit, j'ai l'impression que tu m'as collé une étiquette dans le front, best before. Fait que tu sais, je sais que tu sais, ça y a fait bien de la peine, là, tu sais, de sentir que dans le fond, là, je pense qu'il y avait de la peine ou de la misère à accepter de vieillir. Au fond, là, tu sais, quand ma mère et moi puis ma sœur, on essaie de décortiquer ces paroles-là, c'était comme d'avouer que là, il était plus capable de suivre la parade, tu sais. Fait que c'est un petit peu ça. Fait que j'ai dit, tu sais, papa, on te met pas dehors, là. Ton bureau va rester là jusqu'à ta mort. Ta place de stationnement va rester là. Il n'y a rien qui change. Si tu veux venir 7 jours sur 7, 12 heures par jour, là, t'as beau, là, jamais on va dire quelque chose. Ce qu'on souhaite, c'est que quand t'es là, tu nous appuies, tu nous conseilles, puis tu sois un mentor, que tu joues le rôle de mentor pour nous. On a besoin de toi, on a besoin de ta sagesse, de ton expérience, puis tout ça. Fait que ça l'a comme rassuré un peu, mais je sentais que ça, c'était difficile pour lui d'accepter ça, tu sais.
Ouais, ben c'est que d'un, c'est excessivement fascinant ce que tu racontes là, beaucoup d'histoires croustillantes, d'anecdotes croustillantes pour notre audience, puis je pense que c'est peut-être là que tu allais en venir, mais j'ai cru comprendre que quand ça a été annoncé, il a utilisé le fameux terme « Sachez une chose, je raccroche mes patins, mais on ne retire pas mon chandail. »
C'est exactement ça qu'il a dit.
C'est un fan de hockey, votre père, c'est ça?
Oui, oui, oui. C'est un grand fan de hockey. Puis ce qui est vraiment particulier, c'est que cette soirée-là, il y a l'équipe des livreurs comme cadeau. Puis le cadeau, il l'a déballé en fin de soirée. Fait qu'à ce moment-là, quand il a dit ça, il savait pas. Mais le cadeau, c'est un chandail du Canadien. Puis dans le dos, c'était écrit Jalbert 40 pour le 40e, tu sais. Ce chandail-là, je l'ai encore là, chez nous, je le conserve précieusement, mais tu sais, c'était drôle quand même comme clin d'œil, c'était un hasard, les gars savaient pas qu'il allait dire ça, mais... Fait que bref, c'est ce qu'il a dit, on est au 40e, j'ai fait mon possible pour vous laisser entre les mains une entreprise en bonne santé financière. On était à ce moment-là, je pense, 200 personnes environ. On sent que l'équipe est solide, puis tu sais que Brigitte a l'équipe qu'il faut pour essayer de faire un autre bout, tu sais, avec cette entreprise-là. Mais j'accroche mes patins, mais pas mon chandail. Fait que ça donnait le ton un peu. Tu sais, ouais. Il nous envoyait comme message, faites attention, je serai pas loin, puis je vous regarde aller.
À tous les auditeurs du podcast Hypercroissance, je vous pose une question. Êtes-vous à la recherche des dernières tendances pour votre commerce en ligne? Êtes-vous à la recherche des ressources pour votre chef du département marketing afin de l'aider dans son travail? Si c'est le cas, sachez qu'on croit avoir la bonne réponse pour vous. On a la fierté aujourd'hui de vous présenter notre tout nouveau balado intitulé « Commerce Élite », un podcast qui, à chaque mardi, va présenter des entretiens marketing tactiques avec des acteurs influents du commerce électronique. Dans ces épisodes, on s'assure également de vous mettre à jour sur les nouveautés qui ont impacté l'industrie dans les dernières semaines. Donc après hypercroissance pour les entrepreneurs et social selling pour les acheteurs médias, nous voilà maintenant avec Commerce Élite, un podcast 100% orienté pour les équipes marketing des entreprises qui vendent en ligne. Allez jeter un petit coup d'œil et n'hésitez pas à transférer le podcast à votre équipe interne. De retour à l'épisode en cours.
C'est la question que j'aimerais en venir avec toi, Brigitte, parce que bon, à ce moment, en 2011, tu as le titre de présidente. Sentais-tu vraiment que tu étais la présidente? Est-ce que tu avais les pleins pouvoirs? Te sentais-tu libre des décisions que tu pouvais prendre? Ou au final, il y avait tout le temps quelqu'un qui pouvait remettre en doute ce que tu allais faire?
C'est une bonne question. Je me sentais pas si libre, mais je le faisais pareil. Parce que là, ça faisait comme deux, trois ans que mes associés Richard, Serge, Alain et moi, on mettait des gants blancs pour essayer de convaincre mon père qu'il fallait peut-être changer telle ou telle chose ou améliorer telle ou telle chose ou faire tel ou tel investissement, tu sais. Puis à chaque fois, là, c'était vraiment ardu d'essayer de le convaincre, tu sais. Puis, tu sais, je vais être bien franche, puis j'ai vraiment pas de honte à le dire, là, mais j'en ai pleuré une shot souvent, là, tu sais. Ça a été dur. Tu sais, même une fois, j'avais la main sur la poignée de la porte de son bureau, puis parce qu'on parlait fort, j'avais fermé la porte, puis là, j'y ai dit, OK, là, papa, là, c'est aujourd'hui que je te redonne mes actions, je pars, je vais aller m'ouvrir un petit café dans le vieux Boucherville. Je te redonne mes actions parce que là, moi, me trouver une nouvelle job, c'est facile, mais me trouver un nouveau père, ça, c'est pas possible. Puis je veux pas te perdre, tu sais, comme papa. Puis là, ça l'a vraiment, tu sais, ébranlé. Puis il m'a dit, non. C'est moi qui va prendre du recul, tu sais. Puis t'as raison là. Je suis comme bouleversée, puis j'ai de la misère. Puis tu sais, il m'a donné raison. Le lendemain, il est pas rentré, mais le surlendemain, il est revenu. Ça a pas été long. C'était plus fort que lui. Mais là, aujourd'hui, tu sais, je trouve ça vraiment cute. Puis tu sais, mais moi, ça me crevait le cœur de voir. Tu sais, l'entreprise allait bien, on prenait des belles décisions, on était une gang mobilisée, engagée, avec plein, puis juste des bonnes intentions. Puis je le voyais passer devant ma porte de bureau, les mains dans le dos, marcher tranquillement. Puis tu sais, là, il était piteux. Puis tu sais, j'aurais tant voulu qu'ils soient avec nous puis qu'ils nous disent OK, allez-y là, je vous fais confiance, ça va marcher, mais tu sais, faites attention à tel ou tel. Mais non, tu sais, il y a eu bien de la misère. Puis ça a été comme ça jusqu'à son décès, tu sais. C'est qu'il est décédé fâché. Puis ça, ça me fait encore bien de la peine quand je pense.
Mais en même temps, si on regarde tout ça, les options d'un entrepreneur à un certain moment, c'est de léguer à la génération suivante ou de vendre son entreprise avec un peu de recul. Ça a été la bonne décision parce que vendre l'organisation à des intérêts étrangers ou peut-être même à une autre corporation au Québec, en entendant ce que tu nous dis aujourd'hui, ça l'aurait rendu misérable, là. Ça l'aurait été certainement une des choses les plus difficiles qu'il aurait vécu dans sa vie. Au moins, il savait que même s'il était peut-être plus nécessairement en charge, l'organisation était entre bonnes mains, une personne dans sa famille. Donc, c'est le bon côté des choses, là.
Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on se disait, tout le monde, mais on dirait que pour lui, c'était trop gros. Mais avec du recul, là, ma sœur et moi, on pense que peut-être qu'il avait commencé à être malade, tu sais, parce que mon père est décédé en 2016, finalement, d'une maladie, un cancer qui a duré peut-être 6 mois. Mais on se dit aujourd'hui, en essayant de comprendre, tu sais, ses agissements, ses réactions, ses comportements, que probablement que ça commençait avant ça, qu'il se sentait plus bien, peut-être qu'il avait une forme de démence, peut-être que, tu sais, il était vraiment troublé. C'est comme si ça l'habitait là, nuit et jour là, ce malaise là. C'était vraiment triste, puis tu sais, les résultats étaient là. La preuve, c'est que l'année que je suis devenue présidente, mon père aimait pas ça, les concours, les prix de ci pis ça, là, il aimait pas ça. Puis moi, je me disais, tu sais, ce serait le fun que, en tout cas, finalement, je nous inscris aux Sociétés les mieux gérées de Deloitte, puis je lui dis pas. Fait que je remplis avec Serge, on remplit tout le formulaire, tu sais, puis c'était un beau document, on envoie ça. Finalement, on est nommé parmi les 50 sociétés les mieux gérées au Canada. Mais il était tellement content de, tu sais, il m'a donné là, il m'a fait un gros high five là, tu sais, dans le cadre de porte. Puis j'ai vu là dans ses yeux l'émotion là,
la fierté.
La fierté. Fait qu'il voyait que ça allait bien, il savait, tu sais, que on était dans la bonne direction, mais malgré tout, il était complètement chamboulé là, de plus être capable de suivre, je pense. C'est plus ça. Tu sais. Tu sais, ma mère, elle me disait, tu sais, je pense qu'au fond, c'est ça, c'est la peine de se voir vieillir puis de plus avoir l'énergie aussi d'être capable d'affronter le risque, tu sais, de prendre des risques. Puis ça, c'est difficile au niveau émotionnel, tu sais, la prise de risque, puis ça, il était plus capable de le faire.
Il était plus capable. Et parlons-en de ça, parce que tu le disais dans un entretien, et t'en as même parlé un petit peu plus tôt. Toi, t'es arrivé et ta tolérance au risque était plus élevée. Bon, bien entendu, c'est sûr et certain, comme tu le mentionnais, on t'a légué une organisation avec une bonne santé financière, une organisation qui est une entreprise établie, reconnue, très bien gérée. Donc, c'est sûr et certain que tout est mis en place pour te donner le moyen de tes ambitions, on pourrait dire ça comme ça. Ma question pour toi, Brigitte, quels ont été ces risques-là? Quelles opportunités as-tu vues devant toi quand tu as repris là, de mainmise l'organisation? Quelles ont été ces actions?
Il y en a eu plusieurs. La première, c'était notre changement de tout notre système informatique. On a ajouté un système, un logiciel de gestion des entrepôts, là, un WMS, puis à notre système ERP. On a fait ça tout d'une shot. Puis les entrepreneurs, les personnes qui sont passées par ce processus-là vont comprendre à quel point c'est une épreuve pour une entreprise, un changement de système informatique. Ça nous a pris 2 ans de préparation. On a fait affaire avec des spécialistes qui sont vraiment incroyables dans ce domaine-là. Mais la journée du Go Live, là, il faut avoir les nerfs solides là, parce qu'il y a des entreprises qui passent pas au travers, hein, ou qui perdent des centaines de milliers de dollars. Ça fait que ça a été la première fois que j'ai fait face à un risque important. Mais ce qui a fait que... Mais tu vois, ça, c'est une des choses que j'ai réalisées avec les années, là, le courage entrepreneurial. Je savais pas que j'avais cette force-là. Puis je l'ai vraiment réalisé à ce moment-là. Tu sais, quand j'ai vu à quel point c'était dur sur le système de... Tu sais, le système nerveux.
Bien sûr.
Puis je le voyais sur l'effet que ça faisait sur mes collègues, mes associés, puis tout ça. Puis, fait que je pense que finalement, je suis faite plus forte que je le pensais. Mais après ça, on a fait plusieurs autres choses qui ont été peut-être des risques, comme ouvrir un nouvel entrepôt sur la rive nord. On a déjà à Québec, à Drummondville puis à Boucherville. Mais là, on a annoncé il y a quelques années qu'on allait faire des travaux dans le tunnel. Puis là, on se disait, mon Dieu, nos camions vont rester stationnés sur l'autoroute 20 des heures durant. Ça sera pas tellement rentable puis pas très productif. Fait qu'on devrait peut-être ouvrir. Fait qu'on a, on s'est trouvé un entrepôt sur la rive nord. On a ouvert un entrepôt là-bas. Après ça, on a ouvert dans ce même entrepôt-là, on a dédié un pourcentage en pieds carrés pour ouvrir un genre de mini-entrepôt ouvert au public, mais seulement de produits sanitaires et d'entretien. Ça fait qu'on a ajouté beaucoup de lignes de produits qu'on distribuait pas avant. Puis, avec le recul, on se rend compte que le timing pouvait pas être meilleur parce que c'est arrivé quelques mois avant le début de la pandémie. Alors, les produits de télédétergents pour les surfaces, les désinfectants en main, les masques, etc., les gants, on s'est mis à vendre ça à coups de palette.
Ça
fait que le timing a été vraiment bon. Puis là, aujourd'hui, on voit aussi avec le trafic sur la 20 à quel point c'est une bonne chose que nos camions partent de Boisbriand pour aller livrer, par exemple, à Mont-Tremblant, tu sais. C'est pas mal plus facile comme ça. Ensuite de ça, ben on a ajouté... Moi, j'ai... Tu sais, le jour où je suis devenue présidente, au fond, mon père, il m'a appris comment ne pas finir ma carrière, tu sais. Entre autres, la journée où je suis devenue présidente, j'ai commencé tout de suite à penser à me former une équipe solide, une équipe de direction solide, puis avec des directeurs ou des vice-présidents qu'on a nommés par la suite, assez forts, puis beaucoup plus forts que moi pour m'assurer d'assurer la pérennité, mais à long terme aussi, tu sais. C'est fait que on est allé chercher des grosses pointures, chose que mon père appréciait pas tant, tu sais. Parce que c'est pas parce qu'il avait peur de se faire damer le pion, par exemple. Tu sais, le syndrome du chien le plus gros, là, celui qui jappe le plus fort.
Ouais.
Il y avait pas ce syndrome-là. Il y avait un ego. Tu sais, c'était pas un ego démesuré. Là. Il était très humain, très à l'écoute. Mais d'aller chercher des grosses pointures à l'extérieur ou d'aller demander à des consultants de venir nous aider pour tel et tel. Ça, il y avait bien de la misère avec ça, alors que moi, c'est l'inverse. Fait que je me suis formée une équipe là vraiment incroyable. Là. C'est la meilleure équipe au monde entier. Non, mais je les aime d'amour. Là, tu sais, c'est, puis la preuve, c'est qu'on a doublé le chiffre d'affaires en 10 ans. Là, c'est quelque chose, tu sais. Puis, ce qui est encore plus phénoménal, puisque pourquoi j'ai le plus de gratitude, c'est que ces personnes-là qui se sont jointes à moi pour assurer la pérennité, ben c'est des gens qui ont embrassé la culture. C'est des gens qui ont voulu embarquer dans le fait que une entreprise comme la nôtre, il y en a pas tous les coins de rue. Tu sais, c'est des gens ici qui sont très respectueux. Puis tu sais, quand je parle d'ego, souvent, tu sais, dans les entrevues que je faisais au début, je disais, nous chez Carousel, quand on arrive le matin, là, notre ego, on le laisse dans notre auto puis on rentre après, tu sais, parce que on prend les décisions pour le bien de l'entreprise et non pour notre petite personne, pour le bien commun. Puis on forme une communauté ensemble, puis tout le monde est égal, pareil. Là. Tout le monde a une valeur comparable, là. Que ce soit un cariste, un livreur, une fille aux achats, notre VP finance. Tu sais, tout le monde a sa valeur dans l'entreprise. Fait que tout le monde qui s'est joint à moi, les gens qui se sont joints à moi dans mon équipe de direction, bien, ils ont embrassé cette culture-là. Puis ça, c'est ce qui fait notre force.
Et tu l'as mentionné, vous avez doublé, vous êtes passé de 98 millions de chiffre d'affaires quand tu as repris la présidence en 2011. Vous êtes à 206 millions en revenus en 2022. Ouais. Vous avez 430 employés, 430 collaborateurs dans votre organisation présentement. À quoi tu attribues une croissance de la sorte? Tu as parlé des gens, bien entendu, mais est-ce qu'il y a des initiatives spécifiques? Est-ce qu'il y a eu des stratégies marketing? Est-ce qu'il y a peut-être eu de la chance? Je serais curieux de t'entendre ici à ce niveau.
Je pense que dans ma vie, il y a beaucoup de chance à tous les niveaux. Je crois beaucoup à aux astres qui s'alignent, là, tu sais, aux synchronicités, si on peut dire. Les bonnes personnes se sont placées sur mon chemin au bon moment, puis j'ai peut-être eu aussi un genre de pif là, tu sais, pour les reconnaître, ces personnes-là. Mais c'est sûr que bon, ces personnes-là ont aussi amené leurs compétences. Puis oui, il y a eu beaucoup d'initiatives, tu sais, comme par exemple, on a vraiment fait un grand virage au niveau de l'éco-responsabilité, parce qu'on va, tu sais, on sait que l'éco-responsabilité, c'est une priorité pour notre planète. Puis nous, on vend de l'emballage. Puis l'emballage, ça n'a pas toujours bonne presse. Il y a beaucoup d'abus, il y a beaucoup de sur-emballage. Mais nous, chez Carousel, on est persuadés que l'emballage va toujours demeurer nécessaire, parce que si on protège pas le produit, que ce soit un poivron justement, ou un téléphone cellulaire, ou un album, un disque, un CD, ben ces produits-là, ils vont se briser, vont s'abîmer, puis on va les jeter aux poubelles. Fait que c'est pas mieux pour l'environnement. Alors, il s'agit d'emballer, mais d'emballer intelligemment, puis d'emballer avec des produits qui sont réutilisables, ou qui sont compostables, ou qui sont biodégradables, ou biosourcés, ou bon, il y a plusieurs appellations. On s'y perd, je vais avouer. Nous, chez Carousel, on a lancé il y a quelques années notre engagement 500+, qui disait qu'à chaque année, on allait ajouter minimum 500 produits éco-responsables à notre liste de produits, qui est d'environ 10 000 produits au total. Et puis, qu'on allait faire ça pour minimum 5 ans. Présentement, à peu près entre 50 et 60% de nos produits, des produits qu'on offre à notre clientèle ont une appellation éco-responsable. Soit, bon, je les ai nommés tout à l'heure, c'est ça. Puis, on a tout revu aussi, mission, vision, valeur, raison d'être, etc. Puis, notre raison d'être, maintenant, c'est vraiment, ça tourne autour de préserver les ressources de la planète. Fait que dans le fond, Carousel, là, on veut pas suivre la parade, on veut être précurseur, puis d'inspirer les gens à mieux, tu sais, à faire des gestes concrets pour la planète, oui, mais à connaître un petit peu mieux de quoi il s'agit, parce que on devient un petit peu mêlé. Fait qu'on s'est associé à Eco Entreprise Québec, par exemple. On a aussi inauguré notre nouveau centre qu'on appelle le Centre de connaissances Eco Innove, pour acquérir des connaissances, participer à des tables rondes, puis mieux connaître le sujet au niveau de l'éco-responsabilité. Fait que tout ça a fait en sorte qu'on est devenu un leader au Canada en éco-responsabilité. Fait que ça, c'est pour nous, c'est une grande fierté, parce que on a vraiment le sentiment profond de contribuer à préserver les ressources de la planète. C'est concret. Puis pour nos enfants, nos petits-enfants, c'est nécessaire. Puis on est bien fiers de ça.
Brigitte, tu as également écrit un livre.
Ben oui.
Le livre qui se nomme « Une PDG qui ne pensait jamais le devenir ». On va en parler dans quelques instants sur la conception, sur la création de ce livre-là. Mais avant d'en parler et d'aborder le sujet de comment tout ça t'est venu à l'esprit, je serais curieux de t'entendre à quoi ressemble le futur de Carousel dans les prochaines années. Qu'est-ce qui vous attend? Quels sont les plans stratégiques qui ont été discutés à l'intérieur de l'organisation?
Je pense que, bon, on peut pas tout dévoiler là, mais en gros, là, Carousel a le vent dans les voiles, puis on a sur 430 collègues, je dirais que j'en ai au moins la moitié qui sont en bas de 30 ans. On a une belle grosse gang de jeunes allumés. tu sais, on parle souvent des générations X, Y, les milléniums, etc., qui veulent bouger. Il y a plusieurs façons de les attirer maintenant. Depuis la pandémie, ça a beaucoup changé nos façons de voir les choses. Puis, cette gang de jeunes-là, ils veulent tellement. Alors, j'ai tellement confiance au futur de l'entreprise. Puis, justement, quand on parle d'éco-responsabilité, de centre éco-innove, d'emballage éco-responsable, ça les allume au plus haut point. Alors, on continue dans cette ligne-là. Puis, Carousel, moi, j'ai deux filles. J'en ai une qui est avec nous depuis 2 ans, qui s'intéresse beaucoup à la suite des choses. Puis, ma sœur, qui a jamais travaillé avec moi, sauf 2 étés, a 2 garçons de 23 à 24 ans qui sont aussi avec nous, sont en train de finir leur bac puis leur maîtrise, là, mais sont aussi impliqués les étés avec nous et ultra intéressés à la suite de l'histoire. Plus tous les autres jeunes qui sont autour de nous. Je trouve ça bien excitant. J'aimerais ça vivre encore au moins 60 ans pour les voir aller. Puis, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que je vais pas coller là comme mon père a fait. Puis tu sais, le mot coller, je l'aime pas tant là, mais je veux pas devenir un frein là, c'est ça. Tu sais, je veux les laisser aller avec leurs idées puis leur créativité. Fait que j'ai pas d'inquiétude pour le futur.
Donc on veut garder l'organisation au sein de la famille là, de ce que j'entends.
Oui. On veut. Puis si c'est pas un de nos petits-enfants, là, un des petits-enfants de mon père, ce sera des employés clés, des personnes qui ont à cœur autant que nous la poursuite de cette histoire-là, la suite de l'histoire.
Et je reviens à ton livre, La PDG qui ne pensait pas le devenir. Première chose que j'aimerais savoir ici, Brigitte, comment t'es venue l'idée d'écrire un livre? C'est quelque chose qui prend du temps.
Oui.
J'imagine que c'est un mix de réflexions. Bref, dis-nous d'où t'es venue l'idée?
Quand mon père est décédé, j'ai fait le ménage de son bureau. Puis, j'ai retrouvé un livre que je lui avais acheté quelques années auparavant, un livre en blanc. Je lui avais fait une table des matières parce que mon père, il avait une belle plume, il écrivait bien. Puis, j'avais dit, je me rappelle, là, pour le taquiner, j'avais dit... Je te donne ce livre-là, j'aimerais ça que tu écrives l'histoire de l'entreprise. Il y a juste toi qui s'en souviens, tu sais, des débuts, puis comment ça a commencé, puis ça te ferait quelque chose à faire au lieu de bougonner, là, tu pourrais écrire
ben oui,
ça,
ben
puis
oui.
Nous laisser ça en héritage, tu sais, puis il était parti à rire, il m'avait trouvé drôle. Mais il l'a jamais fait, finalement. Fait que j'ai retrouvé ce livre-là, puis moi, je me suis dit à ce moment-là, je vais l'écrire, le livre, moi, puis l'histoire. C'était d'écrire l'histoire. Je me disais, je vais l'offrir en cadeau au 50e anniversaire. Je vais l'offrir en cadeau à toute l'équipe. Puis à mes enfants, mes petits-enfants, je trouvais que c'était un beau leg, tu sais. Ça fait que j'ai ramassé là des boîtes de les anciens procès-verbaux, des états financiers, des découpeurs de journaux, de magazines. En tout cas, mon père gardait tout. Et moi aussi. Alors, j'avais beaucoup de matériel. J'ai classé ça par décennie. Puis, je me suis loué un chalet en janvier 2020. Puis, je suis partie toute seule avec ma boîte puis mon ordinateur. Puis, je me suis dit, j'essaye. Si ça marche, ça marche. Sinon, ben c'est pas plus grave que ça. Puis, ça a fonctionné. Je me suis assise le premier matin avec mon café. J'ai allumé des chandelles. J'ai mis la musique d'Alexandra Streliski. Puis j'ai été inspirée. Puis finalement, j'ai fait ça 4 fois dans l'année, 4 fois une semaine. Puis je l'ai terminé la même année en décembre. Puis après ça, j'ai un de mes amis qui m'a dit, tu sais, Brigitte, tu racontes l'histoire, mais tu parles aussi de ton parcours, qui est un parcours plutôt atypique. T'as manqué de confiance en toi, t'as réalisé plein de choses que peut-être tu pourrais partager avec des plus jeunes. Alors moi, je te suggère de le faire éditer, puis je vais t'aider à trouver une maison d'édition. Parce que lui, il est dans le domaine, c'est un agent d'artiste, tu sais, fait qu'il dit, moi, j'ai des contacts, là, je vais peut-être... Fait qu'il a envoyé mon manuscrit, puis ça a été accepté chez Québec Amérique. Puis finalement, c'est comme ça que ça s'est concrétisé. Puis là, alors, on a décidé de l'éditer. Fait que la deuxième année a servi à réviser, tu sais, à faire lire à des éditeurs, à une autrice aussi qui m'a aidée à mettre de l'ordre un peu là-dedans. Puis finalement, ben, ça a été édité. Puis je suis bien fière de ça au final. Ouais.
4 semaines dans l'année, le niveau de difficulté de tout ça, est-ce que il a fallu que tu creuses les ménages? Est-ce qu'au final, c'était naturel? Je serais curieux de t'entendre et aussi si tu pouvais partager peut-être des apprentissages avec les gens qui nous écoutent aujourd'hui qui pensent ultimement peut-être écrire un livre.
Mais pour moi, ça a été assez facile parce que c'est mon histoire. Tu sais, j'admire les gens qui écrivent des polars, des romans parce que c'est inventé de toutes parts, puis ça prend tellement d'imagination, de créativité. Moi, c'était plus des faits.
Bien sûr.
Des faits racontés comme je vous parle aujourd'hui, de façon très authentique. C'est pas une œuvre littéraire, il y a pas de belle grande phrase bien tournée. C'est vraiment moi qui raconte une histoire. Alors, pour moi, ça a pas été trop difficile. Puis, j'aime écrire. C'est peut-être aussi quelque chose qu'il faut avoir en partant. Là, c'est sûr que si c'est un fardeau, ça devient moins évident puis moins le fun à faire. Puis, ben, un conseil ou un apprentissage, je pense que la meilleure chose, c'est de s'isoler parce que de faire ça, tu sais, au début, je m'étais dit, je vais fermer la porte de mon bureau puis je vais faire ça 2-3 heures par jour quand je vais avoir le temps, mais on le fait jamais. On repousse. C'est difficile de faire ça. Fait que partir toute seule dans le fin fond du bois avec un ordinateur, c'est la meilleure chose à faire, selon moi, quand on peut se le permettre. Puis ça, c'est vraiment une autre chose.
Mais en année de COVID, hein, en 2020, ça se portait bien tout ça, là, j'imagine.
Absolument. Puis j'ai, tu sais, mon équipe si solide de gens que j'adore était là pour me soutenir là-dedans. Ça fait que ça n'a pas été trop difficile pour moi, franchement.
Brigitte Gilbert, j'aimerais t'entendre peut-être ici avant de te laisser filer, si on veut en apprendre plus sur Carousel, peut-être qu'il y a des potentiels clients qui nous écoutent, des potentiels employés. Où est l'endroit le plus facile pour en apprendre plus sur votre organisation?
Bien, en commençant, je dirais sur notre site web, carousel.ca, carousel avec deux R et un S.ca. Aussi, moi, j'aime le monde. Hein? Fait que n'importe qui a envie de me parler, de m'écrire, je suis facilement rejoignable sur LinkedIn. Sinon, on appelle au bureau de Boucherville, puis je suis là à chaque jour, ou presque. Maintenant, de temps en temps, je garde ma petite fille qui va avoir un an la semaine prochaine. Mais je suis presque toujours au bureau, puis j'aime... Tu sais, je suis rendue à une étape de ma vie, 58 ans, avec 37 ans d'expérience dans l'entreprise, puis beaucoup, beaucoup d'apprentissage. Je suis rendue à une étape où j'aime vraiment beaucoup redonner, avoir l'impression d'être utile, puis de partager les choses que j'aurais aimé savoir à 25-30 ans, là, tu sais, puis que je savais pas au fond, tu sais. Moi, je pensais que ça prenait une longue liste de compétences, alors que c'était pas nécessairement ces compétences-là que Carousel avait besoin, puis finalement, ça a fonctionné quand même. Ça fait que j'aime bien en parler avec les plus jeunes pour les aider à se révéler puis à se trouver des forces, puis foncer dans le fond.
Fantastique. Bon, on mettra les liens de votre site web et également de ton profil LinkedIn dans les notes de l'épisode. Brigitte Gilbert, merci énormément d'avoir pris le temps aujourd'hui avec nous de nous raconter cette belle histoire de reprenariat pour Carousel. Je répète, c'est assez exceptionnel. Passer de 98 millions de chiffre d'affaires à 206 millions de chiffre d'affaires, c'est du gros volume de transactions. Félicitations. Une très belle organisation, une très belle histoire que vous avez ici. Également, pour les gens qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil au livre, la PDG qui ne pensait pas le devenir. Je répète, merci beaucoup Brigitte. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. Merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si l'épisode vous a plu, ce serait très apprécié si vous pouviez partager le podcast sur les médias sociaux afin de faire connaître le balado à un maximum de gens d'affaires possible. Également, je vous invite à m'ajouter sur LinkedIn. Comme je vous le dis à chaque semaine, j'adore discuter avec vous. Et plus souvent qu'autrement, vous me donnez de super idées d'invités pour le podcast. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.